Nous continuons ce matin notre lecture suivie de l'évangile de Marc. La question qui nous préoccupe depuis le début, c'est qui est Jésus ? C'est cette question-là dont traite Marc tout au long de son évangile. Et Marc est très doué pour entretenir le suspense. Jusqu'au chapitre 6, verset 6, on a vu la renommée de Jésus croître. Jésus enseigne qu'il est possible de revenir à Dieu par la foi et la repentance. Et il confirme l'autorité de son enseignement en guérissant des malades, en délivrant des gens atteints de démons. Des foules nombreuses viennent à lui, mais il y a aussi des opposants qui commencent à se manifester. Et ces opposants-là ne sont pas prêts à l'accueillir. Et les choses s'annoncent même mal pour Jésus, au point que les responsables politiques et les responsables religieux se sont déjà mis d'accord pour vouloir sa mort. Et à partir du verset 7 du chapitre 6, on avait vu la dernière fois un changement de tournure des choses. Jésus se concentre à partir de ce moment-là, il se concentre principalement sur ses disciples. Et on entre dans un temps de formation pour les disciples. Et ça prend tout son sens. Parce que si on comprend que Jésus va peut-être mourir, eh bien il est en train de préparer la relève, ceux qui continueront son travail après sa mort. D'où le temps de formation qui commence. Et aujourd'hui, eh bien, on en est arrivé au verset 33 du chapitre 6, qui est toujours un temps de formation, et on va écouter la lecture que va nous faire Laura.
Marc chapitre 6, versets 33 à 44. Mais beaucoup les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les bourgades, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à enseigner longuement. Il se faisait déjà tard. Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Mais Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Ils lui demandèrent: faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger? Et Jésus reprit: combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire: il y a 5 pains et 2 poissons. Alors il leur ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre, par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains. Puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5 000 hommes.
Merci Laura. Lorsque ma grand-mère Antoinette est décédée il y a une dizaine d'années, on a réfléchi avec mes cousines et mon cousin à ce que nous pourrions dire lors de ses obsèques. Quand on s'est rassemblés, il y avait tellement d'anecdotes qu'on ne savait pas très bien comment s'y prendre. Mais il y en avait une dont tout le monde se souvenait. Elle était très marquante et je vais vous la raconter. Ma grand-mère venait de passer un coup de balai dans le salon. Il y avait plein de moutons sur son balai. Et donc elle est allée sur la terrasse. On était déjà toute la famille sur la terrasse. Et elle s'est penchée. C'était une terrasse avec une balustrade métallique et elle s'est penchée sous le premier montant pour pouvoir enlever ses moutons. Et quand elle s'est redressée, elle a oublié qu'elle avait un montant au-dessus d'elle et donc elle s'est cognée la tête. Et à ce moment-là, elle avait encore le balai dans les mains. Elle a levé le balai bien haut et pan sur la balustrade et le balai s'est cassé en deux. De rage de s'être fait mal. Et nous qui étions là, la famille, On était tout interdit, là, la bouche ouverte, à regarder ma grand-mère se venger sur son balai. Et après cette espèce d'instant où le temps s'était figé, on a tous explosé de rire. Et ma grand-mère nous a poursuivis avec les restes de son balai. Alors, elle rigolait à moitié. Bon, elle avait eu mal, hein, sur le coup. Donc, elle avait mal. Elle était aussi en colère après elle-même d'avoir cassé son balai de rage, de dépit. Mais on savait qu'elle n'y croyait pas vraiment. C'était pas vraiment pour nous punir qu'elle nous courait après. C'était aussi parce qu'elle s'était fait prendre la main dans le sac, ou en tout cas en flagrant délit de colère ici. Et bien, lors de ses obsèques, c'est ça qu'on a raconté. Et on a tous ri à nouveau en pensant à ce qui s'était passé avec ma grand-mère ce jour-là. On avait choisi finalement cet épisode parce qu'il nous semblait aussi que ça résumait bien notre vécu avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui était un savant dosage d'affection pour ses enfants et ses petits-enfants et d'impulsivité aussi et de colère. Voilà ma grand-mère. Alors si je vous raconte ça, peut-être que vous vous demandez pourquoi. Eh bien parce que en fait la multiplication des pains par Jésus fonctionne exactement de la même manière. En dehors de la résurrection de Jésus, la multiplication des pains, c'est le seul miracle qui est raconté par les quatre évangélistes. C'est l'unique. Vous pouvez lire les quatre évangiles, vous n'en trouverez pas d'autres. C'est le seul qui est commun aux quatre évangélistes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pour les mêmes raisons que ma grand-mère, c'est que ce qui s'est passé ce jour-là a eu un impact tel sur les disciples. Les disciples qui ont discerné dans cet événement-là quelque chose vraiment qui ressemblait à Jésus, qui était cohérent de ce qu'ils avaient vécu avec lui en permanence. Et il leur a apparu donc que cet épisode de la multiplication des pains était l'épisode significatif pour raconter Jésus, et ils l'ont tous raconté. À travers ce miracle, on va redécouvrir trois choses au sujet de Jésus: sa bonté, sa sagesse, sa puissance. Et c'est ça qu'on va voir maintenant successivement. Et à travers cet épisode, on va constater aussi à quel point Jésus continue à former ses disciples pour la mission qui les attend. Le premier point, la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, si nous en doutions encore après l'introduction de Laura tout à l'heure, on en a encore la preuve ici. Je vous relis le verset 34. Pardon. Quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de pitié pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Exactement comme un berger qui prend soin de ses moutons, Jésus ici, il prend soin de cette foule. Il prend en compte leurs besoins. Et d'après Jésus, de quoi la foule a besoin avant tout ? Eh bien, elle a besoin d'être enseignée. Ce dont les hommes et les femmes ont le plus besoin, c'est d'entendre eh bien, la vérité sur eux-mêmes et la vérité sur Dieu. La vérité sur nous-mêmes d'abord, Laura l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est qu'on est éloigné de Dieu, séparé par lui, à cause de tout ce qu'on a dit, fait et pensé de mal. C'est ça, cette vérité sur nous-mêmes. On encourt la colère de Dieu. Et la vérité sur Dieu aussi. Jésus, dans son enseignement, rappelle la vérité sur Dieu, à savoir qu'il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Jésus pour mourir à notre place sur la croix et nous sauver, nous réconcilier avec lui. Notre plus grand besoin, au final, c'est ça. C'est d'être pardonné par Dieu pour pouvoir entrer en relation avec lui. Pardonner de nos fautes pour celui qui croit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus enseigne en priorité. C'est ça que les hommes et les femmes ont besoin d'entendre, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, comment il nous enseigne ? Eh bien, il nous enseigne à travers la Bible. À chaque fois qu'on ouvre la Bible, on trouve ce message puissant de Dieu qui nous rappelle à lui et qui nous appelle à la repentance et à la foi. Le besoin principal de cette foule, il était bien spirituel, mais vous avez remarqué aussi que Jésus n'a pas oublié pour autant les besoins matériel à cette foule nombreuse qui a faim dans cet endroit désert. Eh bien, il donne à manger, et il donne à manger de façon remarquable. C'est le premier miracle collectif de Jésus. Et d'habitude, Jésus, il guérit ou il chasse les démons de personnes isolées, d'individus. Mais là, pour la première fois, il fait quelque chose pour un groupe, un grand groupe de personnes en même temps. Au chapitre 8, un peu plus loin de l'évangile de Marc, Jésus effectuera un miracle exactement similaire, mais en terre païenne cette fois-ci. 4000 personnes rassemblées en Marc chapitre 8, dans des conditions identiques à ici. Et là, on constate que Dieu, il accueille les Juifs, c'est ce qui se passe ici, 5000 personnes dans un territoire juif, et Marc 8, il accepte les païens aussi. Bonté de Dieu pour les Juifs et pour les non-Juifs. Bonté de Dieu qui n'a pas de limite de sexe, pas de limite de race, pas de limite de langue. Dieu qui ouvre grand les portes de son royaume. Alors ça, Dieu l'avait déjà annoncé à travers un de ses prophètes, 700 ans avant. À travers le prophète Ésaïe, il avait déjà annoncé qu'il accueillerait tous les peuples et qu'il les accueillerait pour ce qu'il appelait un grand festin. Un grand festin pour tous les peuples. Je vais vous lire ce passage. Ésaïe 25, 700 ans avant Jésus. Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples. Un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. Ce festin, la tradition juive l'a appelé le banquet du Messie. Le Messie, le Sauveur, le Libérateur, devait en être l'hôte principal qui accueille tous les peuples. Et la multiplication des pains, eh bien, elle est un petit aperçu, un tout petit aperçu de ce banquet messianique. C'est un peu comme quand vous regardez la bande-annonce d'un film que vous avez envie d'aller voir. Eh bien là, c'est pareil, la bande-annonce, c'est cette multiplication des pains pour les 5000 personnes. Elle annonce un peu de ce que sera le banquet à la fin des temps. Lors de la multiplication des pains, les gens ils ont mangé, en quelque sorte, en avant-première, des choses simples, et ils ont été rassasiés. Et on ne peut, après ça, qu'attendre avec impatience les mets raffinés, les vins vieux dont nous parle Ésaïe. Alors le lien, pour nous, est peut-être difficile à voir, mais à l'époque de Jésus, pour les Juifs, c'était quelque chose d'évident. En voyant Jésus nourrir une si grande foule de personnes, il était évident qu'un Juif allait penser à ce que Dieu avait promis, un banquet messianique pour tous les peuples. Et la preuve, c'est que dans l'évangile de Jean, immédiatement après ce repas des 5000 personnes, ils voulaient le prendre, ils avaient reconnu en Jésus le Messie, et ils voulaient le prendre pour le faire roi. Ils avaient compris que c'était lui le libérateur, le sauveur, lui qui allait accueillir tous les peuples un jour pour faire ce grand festin avec eux. Ça, c'est la partie Jésus et le Messie promis. C'est ce que les Juifs à l'époque de Jésus ont discerné quand ils ont vu Jésus nourrir ces 5000 personnes. Donc ce repas qui annonce une fête bien plus grande, il rappelle aussi quelque chose qui s'était passé dans le passé d'Israël, un autre événement bien connu par les Juifs. Quand Moïse a libéré le peuple qui était esclave en Égypte, quand il l'a conduit dans le désert, ils ont mangé pendant 40 ans des pains qui étaient faits avec une espèce de farine qui tombait du ciel toutes les nuits. Ça s'appelait la manne à l'époque. Et donc quand les Juifs ont vu aussi Jésus nourrir ces 5000 personnes, ils ont pensé à la bonté de Dieu qui avait nourri son peuple pendant 40 ans dans le désert. Et donc vous voyez qu'à travers ce repas, cette multiplication des pains, c'est quasiment toute l'histoire d'Israël qui est balayée. Depuis ses fondations jusqu'au jour, au début où Dieu les a libérés d'Égypte et les a nourris pendant 40 ans dans le désert avec la manne dont ils fabriquaient des pains, jusqu'à la promesse de ce banquet à la fin des temps où le Messie accueillera tous les peuples. Bonté de Dieu qui prend soin de nous. Alors et nous, nous qui vivons au XXe siècle, eh ben, on n'a pas connu la manne, on n'a pas connu non plus la multiplication des pains. En revanche, eh bien, on connaîtra le banquet messianique. Dieu a pris soin de nous en nous envoyant Jésus comme libérateur. On est grâce à lui, pardonnés de nos fautes, on est en paix avec Dieu. Et on vivra ce dernier acte, tous ensemble, le banquet messianique. C'est un peu comme si vous êtes des adeptes d'Astérix et Obélix, vous savez que chaque épisode se termine par le fameux banquet. Eh bien, il y a de cela avec Dieu. Un repas de fête, un repas de communion avec Dieu. Et le barde ne sera pas exclu de cette fête. Les musiciens peuvent se réjouir. Ok. Il y a de cela 15 jours, lors du repas partagé à la suite du culte 3D, Philippe avait apporté une bonne bouteille, un magnum même. Et on avait un peu échangé sur les bons crus à l'issue de ce culte. Et je me suis dit après que, on attend avec impatience de pouvoir goûter ces vins magnifiques dont Dieu nous parle, des vins raffinés, des vins clarifiés, signe de la bonté prodigieuse de Dieu, marque de la communion parfaite que nous vivrons avec Dieu. Alors si vous n'avez pas encore goûté à quel point le Seigneur est bon, je vous encourage à lui faire confiance parce que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Même dans les épreuves de votre vie, même avec la mort en ligne de mire, vous aurez devant vous le bout du tunnel, le banquet messianique. Dieu, comme Père, qui vous accueille autour de sa table. Voilà pour la bonté de Dieu. Voilà ce que la multiplication des pains nous rappelle sur la bonté de Dieu. On passe au deuxième point maintenant, la sagesse de Dieu. Comment est-elle visible à travers cet épisode de la multiplication des pains ? Sagesse de Dieu, selon Paul, alors là, il ne s'agit pas de Paul, il s'agit de Marc, mais je reprends les propos de Paul, parce qu'il me semble cohérent de ce que Marc nous raconte ici. La sagesse de Dieu, elle apparaît comme une folie aux yeux des hommes. Et c'est vrai que dans cet épisode de la multiplication des pains, les paroles de Jésus nous semblent un peu difficiles à admettre. Il se fait tard, il y a plus de 5000 personnes, et il faut renvoyer les gens chez eux pour qu'ils puissent manger, mais Jésus il dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. 12 disciples pour donner à manger à 5000 personnes. La réponse des disciples, je vous la relis, faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ? Ça c'est ironique, hein. 200 pièces d'argent de pain, c'était équivalent à 200 journées de travail en gros. Pour l'époque. Vous imaginez, vous mettez plus de 6 mois de salaire dans la balance pour pouvoir nourrir 5000 personnes. Les disciples, ils sont dans une démarche de raison, ils calculent, mais ils ont oublié une variable de poids, cette sagesse qui paraît aux yeux des hommes déraisonnables. À Dieu, rien n'est impossible. Et on connaît l'histoire, Jésus bénit 5 pains, 2 poissons, et il nourrit une foule immense après les avoir partagés. Une véritable folie pour les hommes, une véritable folie qui montre la sagesse de Dieu. Dieu qui œuvre pour le bien de l'humanité à travers la sagesse qui est bien à lui. Cette sagesse de Dieu, elle s'est aussi manifestée à la croix. Je vous relis le verset 41. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et donna les morceaux à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Est-ce que ça ne vous rappelle pas autre chose ? D'autres paroles que Jésus a déjà prononcera après, en fait, chronologiquement. C'est exactement cette même séquence de paroles que Jésus a eue la veille de sa mort, lorsqu'il a partagé le repas de la Pâque avec ses disciples. Il a pris du pain, il a levé les yeux vers le ciel, il a prononcé la prière de bénédiction, il a partagé le pain, et il l'a donné à ses disciples. Ces gestes et ces paroles, on les redit souvent lors de la scène que nous célébrons un week-end sur deux. Cette scène qui est un rappel du dernier repas que Jésus a pris et qui nous rappelle la mort de Jésus. On partage un petit bout de pain et on boit un gobelet de jus de raisin. Pain et jus de raisin qui nous rappellent le corps et le sang de Jésus, c'est-à-dire sa mort pour nous sauver. Vous voyez comment, à travers ce repas, à travers cette multiplication des pains, on a toute la sagesse de Dieu à la croix qui a donné sa vie pour nous sauver. Voilà pourquoi cet épisode de la multiplication des pains était si essentiel pour chacun des quatre évangélistes. Ce repas avec 5000 personnes qui rappelle que Dieu a nourri son peuple pendant 40 ans de la manne dans le désert. Ce repas qui annonce la mort de Jésus pour nous sauver. Et ce repas qui annonce le repas final que nous prendrons tous ensemble, banquet avec le Messie. Folie pour les hommes, mais sagesse de Dieu. Et enfin, le dernier point que nous allons parcourir ensemble ce matin, c'est que à travers cette multiplication des pains, c'est tout aussi la puissance de Dieu qui est visible. Puissance de Dieu qui se manifeste à travers Jésus, qui partage 5 pains et 2 poissons et nourrit 5 000 personnes. Et finalement, cet ordre qu'il avait donné à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger, eh bien cet ordre se réalise. Ce sont bien eux, les disciples, qui ont contribué en apportant le pain et les poissons à la foule ce jour-là. Les disciples qui ont été au bénéfice d'une formation de Jésus ici. Cette puissance incroyable de Dieu, elle contraste ici avec l'impuissance et l'incompréhension des disciples. Ils ont suivi Jésus, ils l'ont vu faire tant de miracles avant. Alors on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'ils peuvent douter ici que Jésus soit capable de ça? Ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu guérir des paralysés, guérir des lépreux. Ils l'ont vu apaiser une tempête sur le lac de Galilée. Ils l'ont vu redonner toute sa tête à plusieurs personnes qui étaient possédées d'esprits mauvais. Mais plutôt que de s'approcher de Jésus en lui demandant avec foi s'il peut y faire quelque chose, eh bien, ils se referment sur leurs doutes, les disciples, ici. On pourrait même sentir une sorte de pointe d'agacement dans leur réponse à Jésus. « Voudrais-tu que nous allions dépenser 200 pièces d'argent pour acheter du pain et leur donner à manger ?» Deux chapitres plus loin, les disciples vont être à nouveau incapables de comprendre ce que Jésus est capable de faire. On sera en territoire non-juif. Ils ont vu Jésus nourrir 5000 hommes et pourtant, ils doutent encore. Je vous lis Marc 8, verset 4, deux chapitres plus loin. Il n'y a pas 5000 personnes, mais il y en a 4000 cette fois-ci. Et ils disent, les disciples, « Où pourra-t-on trouver dans cet endroit désert assez de pain pour le nourrir ?» C'est triste, on est déçu. On est déçu que les disciples, après avoir vécu la multiplication des pains pour les 5000 personnes, soient incapables de faire le lien avec cette même situation qui leur arrive à nouveau. Ils n'ont toujours pas compris qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Je vais vous lire la suite du deuxième récit en Marc 8. Je crois que vous l'avez, c'est sur les feuilles. Marc 8, 17 à 25. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit « Vous discutez parce que vous n'avez pas de pain ? Pourquoi ? Ne comprenez-vous pas encore et ne saisissez-vous pas ? Votre intelligence est-elle aveuglée ? Avez-vous des yeux pour ne pas voir ? Des oreilles pour ne pas entendre ? Ne vous souvenez-vous pas ? Quand j'ai partagé les 5 pains entre les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains entre les 4000 personnes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, dirent-ils. Alors il ajouta, « Vous ne comprenez toujours pas ?» Ils arrivèrent à Bethsaïda. On amena un aveugle à Jésus et on le supplia de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mouilla les yeux avec sa salive, lui imposa les mains et lui demanda « Est-ce que tu vois quelque chose ?» L'aveugle regarda et répondit « J'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors celui-ci vit clair, il était guéri et voyait tout distinctement. Coup sur coup, pour 5000 personnes et pour 4000 personnes, les disciples sont incapables de comprendre ce que Jésus fait. Et cet aveuglement-là des disciples, il est illustré par la guérison de l'aveugle. Vous avez peut-être remarqué que la guérison de l'aveugle s'effectue en deux temps. Ce qui est assez bizarre, parce qu'on pourrait se dire, mais Jésus, est-ce que ça veut dire qu'il a perdu un peu de sa puissance? Il serait plus capable de guérir quelqu'un directement? Mais ça n'a rien à voir, il le fait exprès. Comme l'aveugle, les disciples, ils voient flou pour le moment. Et leur guérison totale prend du temps, beaucoup de temps pour les disciples. Et je voudrais nous poser la même question. Est-ce qu'on n'est pas un peu comme les disciples, un peu lent à comprendre qui est Jésus? Un peu lent à comprendre ce qu'il peut faire de nos vies? Par exemple, comment est-ce que vous réagissez face à vos tentations? Je suis sûr que Dieu vous a déjà aidé dans vos tentations. En tout cas, ça a été le cas pour moi dans ma vie. Il m'a aidé à maintes reprises dans mes tentations. Et pourtant, quand cette même tentation ressurgit, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? On devrait pouvoir l'écarter parce que Dieu nous a déjà donné les forces de la surmonter. Mais est-ce que trop souvent nous ne succombons pas comme si Dieu ne pouvait rien faire pour nous? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce type d'expérience. L'endurcissement des disciples dans ce passage, il nous enseigne la patience à notre égard, la patience de Dieu à notre égard. Et force est de constater qu'il nous faut parfois de longues années pour voir des progrès sur tel ou tel aspect dans notre vie. Mais Dieu nous appelle à changer. Et il nous en donne les moyens. Il nous en donne les moyens par son esprit. Son esprit qui nous transforme de l'intérieur, sa parole qui nous montre le chemin à suivre, les frères et sœurs dans la foi qui nous encouragent quand nous sommes dans la bonne voie et qui nous reprennent quand nous nous égarons. Dieu est un Dieu puissant. Dieu peut changer notre vie. Mais il ne le fera pas sans nous. Il ne tient qu'à nous approcher de lui pour lui demander son aide. Est-ce que vous vous souvenez du slogan que je vous avais proposé il y a de cela un mois? Est-ce que quelqu'un se souvient du slogan? Je vais vous aider un peu. Est-ce que ça aide? Je vous avais proposé 100% cohérence, chargement en cours. Ça vous dit quelque chose? Comme les ordinateurs qui rament. 100% cohérence, chargement en cours. Ben, quand on voit les disciples ici être lents à comprendre, quand on voit comment nous aussi sommes longs à comprendre, peut-être qu'il faudrait passer à la vitesse supérieure. 100% cohérence, chargement en cours. Dieu est puissant. Il veut changer notre vie. Et il peut le faire. À nous de nous accrocher à lui et de tenir le coup, progresser en lui, pour sa gloire. Amen.